On est souvent assez bluffé hein, par ce que font les IA récentes, surtout quand elles s'attaquent à des problèmes de maths hyper complexes. Mais comment elles y arrivent au fond? Ça reste quand même un peu une boîte noire. Alors aujourd'hui, on va essayer de regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ça, on va s'appuyer sur une recherche vraiment intéressante parue sur Arxiv tout début juin 2025. Elle est signée Guki Minegishi et son équipe. Le titre, c'est « Topology of Reasoning ». L'idée, c'est d'utiliser une approche un peu nouvelle pour analyser la façon dont ces grands modèles raisonnent, quoi. Notre but, c'est de voir si la structure même de leur pensée, si on peut dire, a un impact sur leur performance.
Oui, c'est tout à fait ça. L'idée clé, c'est ce qu'ils nomment le graphe de raisonnement. Faut imaginer ça comme une sorte de carte, en fait. Une carte des états internes de l'IA au moment où elle résout un problème. Chaque nœud, c'est un état de réflexion. Et les liens, eh bien, c'est comment l'IA passe d'une étape à l'autre. Ça permet de visualiser son cheminement, en quelque sorte.
Une carte de la pensée de l'IA, d'accord. Et qu'est-ce qu'on regarde sur cette carte, alors? Qu'est-ce qui est important?
Alors, l'étude se concentre sur trois propriétés principales de cette carte, de ce graphe. Premièrement, la cyclicité. Est-ce que l'IA revient en arrière, tourne un peu en rond pour affiner hors vie? Deuxièmement, le diamètre. Ça, c'est la plus longue distance possible entre deux points du graphe, la plus longue chaîne de raisonnement, si tu veux. Et enfin, l'indice de petit monde. C'est une mesure un peu plus technique.
Ah oui.
Qui regarde si le réseau est à la fois bien connecté localement, un peu comme des petits groupes d'idées proches, et s'il a aussi des sortes de raccourcis pour aller vite d'un bout à l'autre. Et ils ont testé ça sur des maths hein, de différents niveaux. Ça va de problèmes niveau école primaire, le jeu de données GSM 1000K, jusqu'à des trucs de compétition comme EME 2024.
D'accord, je vois. Cyclicité, diamètre, petit monde. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ces cartes nous apprennent? C'est là que ça devient vraiment passionnant, j'imagine.
Exactement. Le truc le plus frappant, c'est quand on compare les modèles distillés, ceux qui sont spécialisés pour le raisonnement, avec les modèles de base, plus généraux. Prenons un exemple comme DeepSeek R1 Distill Qwen 32B. Ben, sa carte de raisonnement, elle est radicalement différente.
Différente comment? C'est juste une petite nuance ou c'est vraiment une autre structure?
Non, non, c'est une vraie transformation. Ces modèles spécialisés, ils ont beaucoup, beaucoup plus de cycles. On parle d'environ 5 cycles en moyenne par problème.
5 cycles, donc ils retournent sur leurs idées, ils les raffinent.
Voilà, c'est l'interprétation. Ils semblent revisiter, creuser davantage. Et leur diamètre aussi est bien plus grand. Ça suggère qu'ils peuvent suivre des raisonnements plus longs, plus complexes. Et cette histoire de petit monde, l'indice est à peu près 6 fois plus élevé.
6 fois ? Attends, ça veut dire quoi concrètement, ce petit monde plus prononcé ? Que l'info circule mieux, que c'est plus efficace.
C'est exactement ça. Imagine un réseau de métro hyper optimisé. T'as plein de petites stations locales, bien connectées entre elles, mais t'as aussi des lignes express qui te font traverser la ville super vite. Ben, ces modèles-là, ils ont une structure interne qui semble bien plus efficace pour naviguer entre les idées pertinentes. C'est moins une exploration un peu au hasard, quoi. C'est plus structuré.
Ok. Et la question clé ? Est-ce que cette belle structure, ça se traduit en résultat? Est-ce qu'il y a un lien avec la performance sur des problèmes de maths?
Ah ben oui, et c'est ça le point crucial. Il y a une corrélation nette. Plus de cycles, un plus grand diamètre, une meilleure connectivité type petit monde. Tout ça, c'est associé à une meilleure précision.
Ah, d'accord.
Et ce lien est d'autant plus visible que le problème est difficile ou que le modèle lui-même est gros. Par exemple, la détection de cycles est maximale sur les modèles de taille moyenne, vers 14 milliards de paramètres. Tandis que le diamètre, la capacité à explorer loin, ça c'est vraiment au top sur les plus gros modèles qu'ils ont testés, le 32 milliards. La structure s'adapte vraiment à la difficulté, on dirait.
Donc, la forme du raisonnement compte autant que la quantité de données, en quelque sorte. Fascinant. Et est-ce qu'on sait comment on obtient ces formes efficaces?
C'est juste la distillation. L'étude montre aussi autre chose d'important, l'impact de l'entraînement. La technique qu'on appelle « ajustement fin supervisé », en gros, tu entraînes le modèle de façon très ciblée avec de bons exemples de problèmes et leurs solutions, ça a un effet direct. Ça augmente systématiquement le diamètre du graphe de raisonnement. Et en parallèle, les performances s'améliorent.
Donc, améliorer les données d'entraînement, ça sculpte littéralement une meilleure structure de pensée pour l'IA.
C'est exactement l'idée. Ça suggère qu'on ne doit pas seulement penser à la quantité de données, mais aussi à leur qualité et à la manière dont elles peuvent encourager l'émergence de ces structures de raisonnement efficaces.
Alors, si on essaye de résumer tout ça, L'idée clé, c'est que la topologie, la structure interne du raisonnement de l'IA, c'est pas juste une curiosité académique, c'est un vrai indicateur de performance et on peut agir dessus via l'entraînement. C'est une piste super concrète pour améliorer les IA, non ?
Tout à fait. Comprendre cette topologie, ça ouvre des perspectives. Ça permet d'analyser pourquoi certains modèles marchent mieux que d'autres. Et surtout, ça donne des idées pour concevoir des entraînements ou des données qui vont spécifiquement viser à développer ces structures performantes. C'est un pont, en fait, entre la compréhension théorique de comment ça marche dedans et l'ingénierie pratique pour faire de meilleures IA.
C'est passionnant. Pour finir, peut-être une question un peu plus ouverte. Si on arrive à cartographier la forme du raisonnement d'une IA, disons pour les maths, est-ce que cette forme commence à ressembler un peu à la nôtre quand on réfléchit? Ou est-ce qu'au contraire, on découvre des manières de penser totalement différentes, peut-être même plus efficaces pour certains problèmes, mais qui ne sont pas du tout humaines? Qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre au fond sur la nature même du raisonnement?